Comme chaque mercredi à 17h30, vous avez rendez-vous avec Lille 1 Info, le magazine qui vous informe sur l'actualité de l'Université de Lille 1. Quand on parle de formation, on pense souvent formation initiale, mais la formation continue est quelque chose d'extrêmement important et développé en France. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Martine Carrette, qui est directrice du Sud-Est à l'Université de Lille. Bonjour Madame Carrette.
Bonjour.
Donc, ce Sud-Est, d'abord, on va expliquer à quoi il sert et peut-être le définir aussi.
Voilà, alors le SUDES, c'est le service de formation continue de l'Université de Lille. C'est un service qui est là pour faciliter toutes les démarches des personnes qui veulent revenir à un moment donné de leur parcours professionnel à l'université, soit parce qu'elles ont besoin d'une qualification supérieure, soit parce qu'elles ont besoin de venir chercher chez nous des compétences complémentaires, une deuxième, une troisième compétence, soit parce qu'elles sont demandeurs d'emploi et qu'elles en profitent aussi pour gérer cette période de transition professionnelle.
Voilà, donc plusieurs cas de figure, on va dire. Peut-être
beaucoup.
Qu'on peut les reprendre un par un pour voir la spécificité aussi, peut-être, de l'accueil de chaque type de population.
Oui, si vous voulez. Donc, bon, tout d'abord, l'Université de Lille offre et ouvre à toutes les personnes qui sont engagées dans la vie professionnelle la possibilité de revenir obtenir un diplôme dans notre université avec des modalités particulières, une pédagogie adaptée tant mieux faire qu'on peut, en tenant compte des contraintes particulières de chacun des publics. On les mélange avec aussi la formation initiale, notamment dans les M2, hein, ce qui permet aussi un mixage et un brassage des publics. Voilà, alors quand on est salarié, le choix politique qui a été fait par notre université, c'est de faire vivre le congé individuel de formation et donc que les enseignements sont organisés en journée, sur le temps de travail. Donc il faut préalablement, à l'entrée à l'université, demander à bénéficier du congé individuel de formation. Il y a donc des dossiers à remplir auprès de l'organisme qui gère ce congé individuel de formation, qui est un droit ouvert à tout le monde et qui permet de venir se former pendant son temps de travail avec le maintien de son salaire.
D'accord. Donc on va revenir sur cette possibilité. Donc est-ce que c'est un droit ouvert, offert à chaque salarié de toutes les entreprises ou c'est particulier ?
Non, c'est tous les salariés français peuvent bénéficier de ce droit. Alors bon, avec des conditions peut-être un peu particulières, il suffit d'avoir travaillé 2 ans et on peut avoir ça. Alors, bien sûr, les budgets ne sont pas extensibles puisque c'est une cotisation obligatoire de la part des employeurs à ce fonds. Hein, et donc, les demandes sont souvent supérieures aux possibilités de financement. Mais quand on a un vrai projet et qu'on sait le défendre, je veux dire, les dossiers passent. Il faut avoir un vrai projet, savoir pourquoi on vient à l'université et attendre quand même d'avoir travaillé quelques années.
Qui est-ce qui juge de la qualité du dossier ?
Alors ces fonds sont gérés par des organismes paritaires, donc moitié représentants de salariés et moitié de représentants du patronat. Et il y a un dossier, il y a des auditions éventuelles, il faut bien remplir ce dossier et il faut aussi bien savoir se défendre et bien expliquer le pourquoi de son entrée en formation. On vient pas en vacances, hein, on vient parce qu'on a un projet, que ce projet il est réalisable, il est réaliste et qu'on a toute l'envie, on mettra toute l'énergie pour le mener à bien.
En général, c'est pour améliorer sa compétence dans son domaine habituel de pratique professionnelle ou c'est pour éventuellement changer d'orientation ?
Alors on voit tout type de candidatures, hein, dans notre université. Bon, la majorité des candidatures, c'est pour progresser quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai obtenu un DUT ou un BTS. Je travaille depuis une dizaine d'années. J'ai acquis des responsabilités dans l'entreprise. Je veux pouvoir aller encore un peu plus loin. Hein. Et donc, je viens chercher un autre sésame, qui sont souvent les Master 2.
Alors, au-delà de la compétence professionnelle et du plaisir de s'améliorer soi-même, est-ce que c'est valorisable en termes de reclassement professionnel, d'indice de traitement ?
Alors, quand on vient dans le cadre d'un plan de formation qui est un autre dispositif, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est l'employeur qui vous envoie en formation, bien sûr, avec votre accord. La nouvelle qualification est automatiquement reconnue. Dans le cadre d'un congé individuel de formation, comme c'est une formation que vous suivez à votre initiative et par rapport à un projet individuel, d'amélioration de votre carrière professionnelle, l'entreprise n'est pas obligée de reconnaître cette nouvelle qualification. Alors, on voit, c'est que la majorité des gens viennent déjà dans les filières très professionnalisées de l'université où il y a des débouchés importants, intéressants. En plus, comme on a déjà travaillé, je veux dire, c'est plus, on a un plus par rapport quelque part aux jeunes qui sortent. Enfin, on est autrement en tous les cas. Beaucoup en profitent pour changer d'entreprise et valoriser à l'extérieur de l'entreprise.
Donc, quand ils veulent changer d'entreprise, enfin, ils ne disent pas forcément au départ.
Bien sûr que non.
C'est pas dans le dossier.
C'est pas dans le dossier. C'est vraiment quelque chose qui est individuel. Enfin, je veux dire, on peut, y compris venir se former en dehors de son temps de travail, en bénéficiant de la prise en charge et frais de formation, sans le dire à son employeur quand c'est en dehors du temps de travail. Bon, nous, il se trouve qu'à l'université de Lille, on a choisi de quelque part d'ouvrir des cours du jour. Donc là, il est beaucoup plus difficile. Mais on voit des salariés qui cumulent un certain nombre de droits, des RTT, des congés, et qui viennent tout à fait aussi dans des conditions plus difficiles et moins favorables à l'université acquérir un nouveau diplôme.
Alors, dans les entreprises qui ont parfois des plans sociaux, des licenciements, etc., est-ce qu'elles utilisent ces droits des gens, oui, des salariés, pour éventuellement les situés dans d'autres, les délocaliser, ou sais pas comment ça se passe.
Alors en général, quand il y a un plan social, je veux dire, il y a une urgence. Je veux dire, c'est pas un diplôme de l'université, c'est quand même un an. Mais les plans sociaux, en général, l'urgence est plus que là. Bon, ceci, dans beaucoup de plans sociaux, comportent des clauses de formation. Et on peut trouver dans l'université des blocs de compétences qui font partie qui sont des morceaux de diplôme qui sont accessibles. On aura peut-être pas un diplôme complet lors d'un plan de conversion, mais on peut avoir des crédits d'un diplôme qu'on viendra compléter par la suite, ou ce qui est utilisé assez souvent actuellement, c'est la validation des acquis de l'expérience, qui est aussi un autre moyen d'obtenir un diplôme sans passer par la case formation forcément. Et ce dispositif est relativement utilisé dans ces périodes de transition professionnelle où, quelque part, obtenir un diplôme en faisant valider son expérience permet aux gens d'avoir une ligne de plus sur leur CV, d'avoir un plus sur leur CV, et en tous les cas un pointeur social très important et très fort.
Donc on peut conseiller aux personnels qui sont dans des entreprises qui semblent un peu en difficulté que faire ce genre de formation, c'est toujours utile à titre de prévision.
Je pense que l'orientation que l'on prend, on peut, je dirais, être d'accord ou pas, mais en tous les cas, on aura des vies professionnelles de plus en plus longues, avec l'allongement de la durée du travail.
Oui, on se demande même si on va avoir une retraite un jour, non ?
Voilà, peut-être. Mais en tous les cas, de plus en plus haché. C'est-à-dire qu'une même carrière dans une même entreprise, ça ne se verra quasiment plus. Et que les gens qui sont actuellement en poste, les jeunes générations, vont devoir changer plusieurs fois d'emploi. Et que c'est à eux, quelque part, de la gérer, cette carrière, et de faire en sorte que toute cette période de transition, d'anticiper toutes ces mutations, en revenant à l'université, je crois que c'est un lieu privilégié d'acquisition de compétences nouvelles, fortes et demandées sur le marché de l'emploi au niveau technicien et cadre. Il faut absolument que chacun conduise sa carrière et essaye de rester opérationnel par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux nouveaux développements, par rapport à un environnement économique qui, de toute façon, va être de plus en plus instable.
Alors évidemment, il y a des domaines où les évolutions vont très très vite, en technologie, informatique, etc. Est-ce que justement ces gens-là ne sont pas, j'allais dire, obligés de se mettre à jour régulièrement, et est-ce qu'ils sont favorisés dans la prise en compte de leurs demandes dans la mesure où il y a une technicité qui est exigée, qui est de plus en plus rapide et d'efficacité, une norme d'efficacité?
Non, il n'y a pas de privilège. Bon, nous, on a ouvert tous nos diplômes. Je veux dire, et ce n'est pas forcément en sciences et technologies qu'on trouve les demandes les plus importantes. Hein, mais le domaine du management, de la gestion de projet, sont en tous les cas des métiers très demandés pour une deuxième partie de carrière. Hein, plutôt que des nouveaux, enfin, je veux dire, rester dans un domaine très technique, qui évolue, etc. À partir de 45 ans, on a souvent des responsabilités en termes de management d'équipe, en termes de management de projet, et c'est ça que les gens viennent rechercher chez nous, viennent asseoir, je dirais, à l'université. Donc tout dépend, je veux dire, du projet. Hein. Mm-hmm. Et ce que l'on essaye de faire dans mon service, c'est de mettre le projet au cœur du dispositif. C'est-à-dire qu'on propose aux personnes l'ensemble des outils possibles par la loi. On est aussi centre de bilan de compétences. On propose des aides à la définition de projets, une offre permanente de modules autour des intérêts, des motivations, des compétences, enfin, qui permettent aux gens de se situer. On ouvre aussi la validation des acquis de l'expérience. Et ce centre, on prépare aussi aux entretiens professionnels. Enfin, on prépare un certain nombre de choses qui sont des outils aussi intéressants de la gestion de carrière. Ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut rester attentif aux évolutions pour pas être out, et que de temps en temps venir se faire accompagner par quelqu'un, c'est tout à fait utile et pertinent à un moment donné, d'avoir un regard extérieur qui vous permette de mieux vous situer, de mieux vous projeter. Et tous ces outils sont disponibles au Sud-Est. C'est un des rares exemples en France d'université française où vous pouvez les trouver.
Madame Kahn, vous parliez d'acquis de l'expérience. Effectivement, bon, il y a l'expérience dans l'entreprise, mais il peut y avoir des expériences privées, personnelles, qui peuvent être valorisées. Comment ça se passe ?
Alors, toute expérience est validable. Que ce soit une expérience syndicale, une expérience politique. Hein, là, on va avoir un certain nombre de conseillers régionaux qui vont probablement pas retrouver leur siège, et donc ils vont peut-être venir à un moment donné faire valider aussi cette expérience. Ça peut être du bénévolat, ça peut être tout type d'expérience est validable. La loi le dit, on valide l'expérience. Alors, on valide l'expérience pas pour valider l'expérience en soi, on valide l'expérience par rapport à un projet. Et on va travailler sur la transférabilité des compétences acquises dans l'exercice d'une activité associative, dans des activités professionnelles ou dans d'autres situations. Tout au cœur de la démarche, c'est l'individu, son projet. Hein. Et on va travailler avec lui et l'aider à repérer les missions et ce qu'il a fait dans sa vie pour obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur en ce qui nous concerne. Mais la validation des acquis se pratique pour tous les diplômes et titres professionnels inscrits au répertoire national de la certification professionnelle.
Alors, c'est vrai que notre région est riche en associations, en vie associative, en bénévoles, on va dire. Il y en a encore des bénévoles, heureusement. Est-ce qu'ils ont suffisamment conscience de ces possibilités? Est-ce qu'ils les exploitent?
Alors, vous dire que tout le monde le sait, non. On peut faire toutes les campagnes de publicité. Je crois que l'État et la région en ont fait beaucoup. Je veux dire, on est une des rares régions à avoir des points relais conseils en validation à proximité du territoire. Il y en a 90 sur la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, je veux dire, très très près des lieux de vie des personnes, soit de leur domicile, soit de leur lieu de travail. Il y a eu des grandes campagnes de pub. Il y a des sites internet. Il y a tout un tas de choses. Bon, c'est vrai, une partie des gens le savent, mais une partie ne le savent toujours pas. C'est seulement maintenant et d'une manière plus récente qu'on voit les entreprises s'intéresser aussi à ça, puisque c'était un outil qui était un petit peu dérangeant. Les gens allaient avoir un diplôme, allaient éventuellement avoir des revendications. Il a fallu un certain temps pour que les entreprises s'approprient cet outil dans le cadre de leur gestion de prévisionnalité des emplois et des compétences. On travaille, nous, en partenariat avec les entreprises dans un certain nombre de programmes pour faciliter l'accès à la validation des acquis d'expérience dans les PME, dans les TPE, dans les grandes entreprises. Je veux dire, il y a des programmes importants Souvent financés par l'État et la région, ou par des ministères, comme le ministère de l'Industrie, qui permettent ce type de choses. Mais bon, c'est une loi qui date de 2002, hein, comme toute loi, je veux dire, elle n'est pas forcément connue du grand public.
C'est quand même intéressant parce qu'elle met l'accent sur l'intérêt des associations et leur rôle dans la formation, d'une certaine manière, de personnes, de citoyens. Et en quelque sorte, les associations contribuent au développement du pays. Alors on peut peut-être parler ou non de développement du PNB par rapport à ça, mais au moins de l'enrichissement de la compétence d'un pays.
Ah, on est parfaitement d'accord. Quand le législateur a décrété, dans un texte de loi, que toute expérience était validable, ça s'appuyait sur des véritables constatations. Le législateur n'a pas voulu se faire plaisir. Et moi, dans ma pratique professionnelle, je vois des gens qui viennent valider une expérience associative. Être dirigeant d'un grand club de foot, c'est quelque chose. Être trésorier d'une association, on a appris des choses en comptabilité. On a des bénévoles, bon, ça ne concerne pas l'université, mais on essaie de travailler en partenariat avec l'ensemble des certificateurs publics dans cette région. On a des gens qui travaillent, qui accompagnent des personnes âgées. C'est aussi validable dans le cadre d'un diplôme. Je veux dire, on trouve toujours le diplôme qui correspond à cette expérience. Voilà.
Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que cette possibilité de validation peut éventuellement faire émerger des intérêts nouveaux, on va dire, de population pour la vie associative, parce que ce sera peut-être un jour l'occasion de faire valoir une nouvelle compétence.
C'est tout à fait possible. L'exemple, c'est la meilleure forme de communication. Je veux dire, partout où on travaille, avec quel que soit le collectif dans lequel on va, une entreprise, une petite, une moyenne, qu'on travaille avec les responsables syndicaux, quand on croise. Avoir l'exemple de quelqu'un pour qui ça a été possible, ça permet des déclenchements vis-à-vis de gens qui n'osent pas forcément venir. Et peut-être que le milieu associatif devrait aussi peut-être ouvrir un site internet avec des exemples tout à fait réussis de validation. Alors dans le site régional sur la validation des acquis de l'expérience, il y a des exemples qui viennent du milieu associatif, mais c'est vrai que ça serait aussi bien si le milieu associatif lui-même s'en emparait.
Alors c'est vrai que pendant longtemps, les seules récompenses, j'allais dire, c'était au-delà du plaisir personnel de la vie communautaire de l'association, et le plaisir d'accomplir une œuvre, on va dire. Il y avait aussi parfois des remises de médailles, de la jeunesse et sport. On est bien au-delà maintenant.
Oui, je crois que on vous délivre un diplôme. C'est le même que ceux qu'on délivre aux jeunes qui sortent du système éducatif. Il n'est pas écrit que vous l'avez acquis par validation des acquis de l'expérience. Vous avez là, je veux dire, dans notre pays, où quand même le diplôme représente quelque chose, il a une valeur sociale et c'est un pointeur social quelque part. Il est, pour un certain nombre de gens qui ne croyaient pas que c'était possible, un véritable aboutissement de toute une vie, de toute une carrière, et ils considèrent ça comme une reconnaissance de la société envers ce qu'ils ont accompli pendant leur parcours. Alors on a ça, et on a aussi l'égalité entre les générations. On a des jeunes qui poursuivent leurs études et puis on a des parents qui ont des carrières tout à fait exemplaires et intéressantes dans l'associatif ou aussi dans la vie professionnelle et qui, quelque part, n'ont pas eu cette possibilité d'aller à l'école ou d'aller à l'université pendant longtemps, en tous les cas. Et à un moment donné, que l'université ou que l'éducation nationale reconnaissent qu'ils ont le niveau d'un master ou le niveau d'un DUT ou d'un BTS ou même d'un bac professionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire pour ces gens. Ils ne l'imaginaient pas et moi je n'ai jamais vécu de validation des acquis négative.
Alors, supposons que quelqu'un dans ces conditions ait une validation d'acquis à la licence, est-ce que par la suite ça l'encourage à aller au-delà, au master 1 ou master 2? Est-ce que vous sentez une limite quand même au système?
Non, ça dépend des gens. Alors effectivement, l'acquisition d'une licence peut être le début d'une carrière, ça peut être aussi l'aboutissement. Souvent, plus on est jeune et plus on pense que c'est un début. Hein, je dirais que quand on vient se faire valider vers 55 ans, 60 ans, là on est content, c'est un pointeur. Quand on vient à 35 ans, là c'est un encouragement fort à aller plus loin. Et bon, ça ça dépend des gens. Enfin, je crois que la grande caractéristique de ce dispositif, comme de la formation continue, c'est de s'adapter à l'individu qu'on a en face de nous et de proposer des solutions individualisées par rapport à la demande. Et donc, les satisfactions, elles sont pour l'individu par rapport à son projet. Et elles vont différer d'un individu à l'autre, forcément. En tous les cas, c'est toujours une grande victoire.
C'est vrai que dans une vie, au-delà d'une carrière, il y a aussi une vie qui est peut-être parfois plus longue qu'une carrière, on peut le souhaiter d'ailleurs. Il peut y avoir des bouleversements, des changements d'univers qu'on veut se donner, parce qu'en finalement, on peut imaginer un jour d'être dans une impasse ou vouloir sortir d'un engrenage. C'est quand même une belle opportunité.
Ah, tout à fait. Je veux dire d'abord, pas que la validation, mais la validation et la formation. Hein. La formation, ça redonne aussi une grande jeunesse aux gens. Et il n'est pas rare que les premiers de promotion, ce sont des adultes en reprise d'études, pour lesquels on a là aussi utilisé une autre forme de validation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, pour rentrer en M2, d'avoir le M1. On a un autre texte qui permet de valider le parcours professionnel, qui s'appelle la validation des acquis professionnels et personnels. C'est un décret de 1985 qui permet d'accéder, au vu de son expérience professionnelle et personnelle, à tous les niveaux de l'enseignement supérieur sans avoir le titre requis. Donc ça, c'est utilisé en vraie grandeur dans notre université. On étudie à peu près 1200 dossiers par an. Donc c'est quelque chose aussi qui est utilisé. Donc il y a beaucoup de choses. Donc il faut gérer. L'objet du service, c'est aussi d'aider les gens à se repérer dans le paysage des possibles. Donc revenir à l'université, c'est aussi retrouver des jeunes. C'est aussi retrouver faire un dynamisme. Moi je vois des gens qui n'y pensaient pas se battre pour passer un examen et se faire des challenges à eux en disant c'est vrai, il y a un examen à passer, mais après se prennent au jeu et ils sont très contents finalement que de foncer, de réussir. Et souvent, je vous dis, on obtient des résultats très excessivement positifs.
Mmh. Alors, ça peut être aussi une belle parenthèse dans la vie en disant oui. J'en ai un peu marre de mes collègues de travail ou de mon patron. On va un petit peu prendre de l'air un peu ailleurs, quoi.
C'est aussi un autre type de public qui, à un moment donné, a besoin de faire un break, effectivement, qui a besoin de prendre du recul par rapport à son activité professionnelle, qui a besoin de prendre un bol d'oxygène. Et c'est vrai que revenir à l'université, ça apporte cet oxygène et ça permet des remises en cause parce que la qualité de l'enseignement qui est, rappelons-le, adossé à la recherche, quelque part, et qui permet d'analyser, de réfléchir d'avoir les outils qui permettent à un moment donné de prendre ce recul, je dirais tout à fait pertinent. Et on a une partie du public qui vient à un moment donné se reposer, parce que c'est vrai, se reposer, c'est pas le bon terme, je veux dire, en tous les cas faire un break par rapport à une vie de plus en plus stressante, qui va repartir sur d'autres bases, et peut-être encore pour une vie plus speed, on ne les suit pas ad vitam aeternam.
Non, on voit aussi des choses nouvelles en permanence. Les universités offrent de plus en plus de formations fines, on va dire, qui tiennent compte aussi du contexte et qui peuvent donner envie. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, des formations n'existaient pas et peut-être la motivation ne pouvait pas exister dans la mesure où on n'imaginait même pas que ces métiers existent.
Ça, c'est la grande force de l'université, c'est donc de travailler en anticipation des nouveaux métiers. Actuellement, on est en train de travailler dans l'université sur les métiers verts, sur tout ce qui tourne autour du plan Bordeaux-Létard, et on sait qu'il y aura des emplois, on sait qu'il y a des emplois de techniciens et de cadres, on sait qu'il y a besoin il va y avoir besoin de reconvertir ou de faire acquérir des compétences supplémentaires à des gens en poste. On y travaille, on essaye tout travaillant en anticipation. C'est bien quand ça se passe comme ça. Quelquefois, on nous demande aussi de travailler, malheureusement, en regardant dans le rétro, en disant, telle branche professionnelle ou tel type d'industrie n'a pas pris les virages, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est tellement mieux d'anticiper pour les gens et pour tout le monde.
Je pense par exemple à des agriculteurs qui ont des difficultés avec leur, leurs exploitations agricoles. En ce moment, c'est difficile pour eux, hein, faut bien le dire. Et tous ces métiers verts, ils doivent commencer à regarder un petit peu de ce côté-là, parce que finalement, on leur prend la nature même de leur existence, de leur fonctionnement. Le vert, c'est quand même eux d'abord, non?
C'est eux aussi. Je ne sais pas si c'est d'abord, c'est eux aussi, en tous les cas. Je pense que nos collègues du ministère de l'Agriculture, hein, parce qu'ils ont les diplômes qui sont enfin, la même catégorie de diplôme que nous, vont s'y pencher. Mais en tous les cas, nous, on s'y penchera dans notre université, peut-être pas sur les métiers directement au niveau de l'agriculture, c'est pas dans notre compétence. Mais en tous les cas, je suis certaine que le ministère de l'Agriculture va offrir, offre déjà un certain nombre de formations dans ce domaine.
Alors, une dernière intervention, je voudrais vous demander les dossiers qu'on doit faire. Là, je pense qu'on a mis tout le monde en appétit. Est-ce qu'il y a un moment particulier à privilégier?
Alors, si l'objet, c'est de revenir à l'université pour acquérir un diplôme, c'est maintenant. Enfin, mars, avril, mai. D'abord parce qu'on a du temps, on a le temps, nous, d'étudier la demande, de bien conseiller, de bien vous faire rencontrer les enseignants à un moment donné pour qu'ils puissent aussi discuter avec vous. C'est aussi le moment où il faut demander son congé individuel de formation, parce que les commissions qui attribuent et qui regardent les dossiers, qui décident positivement ou négativement par rapport à votre demande, elles se réunissent en mai, juin. Bon, il y en a quelques-unes en septembre, mais je veux dire, autant arriver au début du processus et le faire bien. Hein, donc je pense que c'est maintenant. Même pour les demandeurs d'emploi, il y a des démarches à faire au niveau de Pôle emploi, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent aux demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés de retrouver une indemnisation. Autant s'y prendre maintenant, c'est beaucoup plus facile. Alors on peut toujours traiter les choses dans l'urgence en juin, juillet ou en septembre, mais la rentrée universitaire elle a lieu de plus en plus tôt, hein, elle a lieu en septembre, donc il faut s'y prendre, plus on s'y prend tôt et mieux c'est pour tout le monde.
Merci Martine Carrette, peut-être un contact si on veut des informations?
Alors, si vous souhaitez des informations, les personnels du Sud-Est sont à votre disposition. Alors, le Sud-Est, c'est sur la Cité Scientifique. C'est un bâtiment qui est à côté de la station de métro Cité Scientifique. Le téléphone, c'est 0320 43 45 23.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.